fidèle jusqu'à la mort. Chapitre 8. Une sombre demeure. Lady Marnell fut transportée le soir même dans la prison qu'elle devait occuper à la Tour de Londres. Lorsque la porte de son cachot fut refermée sur elle, elle parcourut des yeux le logis où elle devait vivre désormais. C'était une petite cellule carrée aux murs blanchis à la chaux et faiblement éclairée par une étroite fenêtre garnie de barreaux de fer. D'ameublement point. Il fallut apporter de Marnell House les quelques objets autorisés par le règlement, une paillasse avec une couverture, un escabeau et un crucifix. C'était tout. La prisonnière devait rester là jusqu'en septembre. Les jours s'écoulaient avec une monotonie désespérante. Lord Marnell venait quelquefois voir sa femme, mais ses visites étaient rares, et personne d'autre n'entrait dans la prison. Par son geôlier qui lui témoignait une certaine bienveillance, Marjorie apprit les graves événements qui se passaient en Angleterre. Milord Hereford était rentré au pays avant l'expiration de son temps d'exil, et s'était emparé du roi Richard, dans son château de Flint. Que fera-t-il ? Demanda Marjorie. Vraiment, je n'en sais rien, répondit le geôlier. Peut-être cherchera-t-il à devenir roi lui-même. Je le désire pour le bien de votre grâce, puisque c'est la coutume de relâcher les prisonniers au début d'un nouveau règne. Quelque temps après, Henri de Bolingbroke justifia la prédiction du geôlier. Il fit mourir Richard à Pontefract, et prit possession du trône. Le malheureux roi au cœur trop tendre et trop confiant, n'avait que 33 ans. La petite reine, veuve à l'âge de 11 ans, fut renvoyée en France, mais sa merveilleuse collection de bijoux resta entre les mains d'Henri. Ce changement de monarque n'amena cependant aucune amélioration dans la situation de Marjorie. Au contraire, l'abbé d'Isson étant un ami personnel du nouveau roi, les persécutions contre les Lollards devaient sévir plus violentes que jamais sous son règne. Le 16 septembre 1400, Lord Marnell, quittant la prison de sa femme, rencontra l'abbé d'Isson qui entrait. « Êtes-vous arrivé, monseigneur, à convaincre Lady Marnell de ses erreurs ?» demanda le prêtre. « Je ne l'ai pas même essayé. » répondit Lord Marnell sèchement. « Adieu, Madge, je vous reverrai bientôt. »« Adieu, monseigneur, » dit Marjorie, qui, pour la première fois de sa vie, regrettait de voir s'éloigner son mari. À dire vrai, depuis quelque temps, Lord Marnell était irrité contre ses directeurs spirituels qu'il craignait de les rencontrer. « Vous avez eu le temps, ma fille, » dit l'abbé lorsqu'il fut seul avec Marjorie, « de vous repentir de vos fautes avec prière et dans la pénitence. Reconnaissez-vous maintenant que vous avez gravement péché ?»« Non, mon père. Vraiment ? Je regrette de vous entendre. Ne craignez-vous pas la réprobation de l'Église ?»« Je ne la crains pas, et Christ lui-même a dit, « Ils vous excluront des synagogues, même leur vient que quiconque vous tuera pensera rendre service à Dieu. » Jean 16, 2, « Finirez-vous vos éternelles citations ?» s'écria l'abbé, fort en colère. Mais Marjorie ne répondit que par un autre verset de l'Évangile, « Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. C'est pourquoi vous, n'entendez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Jean 8h 47, « Soyez maudite par l'Église, misérable hérétique, cria-t-il son fou de rage, et, perdant tout contrôle sur lui-même, il la frappa au visage. « Prenez garde, » répondit-elle, « de ne pas attirer sur vous-même la malédiction de Christ, qui est le chef et le seigneur de l'Église, car il ne supporte pas volontiers qu'une de ses brebis soit maltraitée. « Tais-toi, sorcière, » répliqua l'abbé. « Je ne suis pas une sorcière, » répondit calmement Marjorie. « Je vous cite seulement les paroles de Christ, et vous ne voulez pas les entendre. Mais il est écrit, il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, afin qu'ils ne voient pas des yeux, et qu'ils n'entendent pas du cœur, afin qu'ils ne soient pas convertis, et que je ne les guérisse pas. » Jean midi 40. L'abbé ne put en supporter davantage. Il frappa la jeune femme si violemment qu'elle tomba sans connaissance sur les dalles de sa cellule. Ayant par ses moyens primitifs mis fin aux éternelles citations de Marjorie, il ouvrit la porte à l'aide d'une clé qu'il portait sur lui et disparut prestement. Lorsque Lord Marnell revint le même soir voir sa femme, il la trouva gisant évanouie. Le geôlier, qui était pitoyable envers sa prisonnière, alla chercher un médecin nommé Simon qui constata qu'elle s'était grièvement blessée à la tête en tombant. « Quand Lady Marnell doit-elle comparaître devant le conseil ? » demanda-t-il. « Demain ? » ?»« Demain ? » ?»« C'est impossible. Elle n'est pas en état de soutenir les fatigues d'un interrogatoire. Dites-le vous-même à ses juges, » dit Lord Marnell, « car il ne me croirait pas. » Maître Simon se rendit sans tarder auprès du conseil que présidait Arundel. Ce dernier ne voulait pas croire à la maladie de sa victime, et allait passer outre, malgré les dires du médecin, lorsque, à la surprise de tous les assistants, Bilson se leva et proposa d'ajourner l'interrogatoire. Ses collègues étonnés se rangèrent à son avis. Nous verrons plus tard quelles étaient les raisons de cet homme cruel, pour appuyer Maître Simon dans cette circonstance. La séance fut remise au mois de février suivant. Mais Marjorie était tombée gravement malade. Maître Simon, qui n'avait pas le cœur dur, obtint des adoucissements au régime de la prisonnière. Un lit, du linge, quelques douceurs furent apportées de Marnell House dans le cachot, et surtout, grâce plus grande, on permit à Alice Jordan de venir soigner sa maîtresse, qui pendant de longs mois, eut à peine conscience de ce qui se passait autour d'elle. Une nuit d'hiver, sombre et glacée, alors qu'un lumignon fumeux éclairait seule l'étroite cellule. Marjorie murmura soudain, « Qui est là ? C'est moi, chère maîtresse, Alice Jordan. Alice Jordan. Où suis-je ? Était-ce un rêve affreux ? Sommes-nous à Novelle ?» La voix d'Alice trembla en répondant, « Non. Où donc alors ? Ah, je me souviens. C'est la tour de Londres, et la fin est proche. Non, non, noble dame, vous allez mieux, beaucoup mieux maintenant. Je ne parle pas de la mort par la maladie Alice, mais de la faim, du terme de mon long pèlerinage à la porte de la Sainte Cité. Le chemin a été dur et douloureux, j'en vois venir le bout avec joie. Quelque terrible que soit la faim, je pourrai la supporter maintenant. Mon âme est détachée de la terre. Je ne désire plus rien que Christ, et d'être enfin auprès de lui. Alice, comment va mon fils ? Jusqu'ici, je n'ai pas eu le courage de parler de lui, mais maintenant, je crois qu'il va bien, chère dame, mais je ne l'ai pas vu depuis bien longtemps. Lord Marnell l'a envoyé auprès de Dame Lovell. Les yeux de Marjorie exprimèrent toute la joie que lui causaient ces nouvelles. Monseigneur est-il venu ici depuis que je suis malade ? Il y vient tous les jours, noble maîtresse. Ma mère sait-elle que je suis souffrante ? Lord Marnell le lui a sans doute fait dire par Messire Pinson, lorsque celui-ci a emmené l'enfant. Messire Pinson ? Est-il venu ici ? Il est arrivé le jour de Saint-Luc, et il est reparti avec le jeune seigneur. Qu'a-t-il dit, Alice, lorsqu'il a appris que j'étais en prison ? Il s'est caché la figure, et a pleuré amèrement. Marjorie tourna son visage contre la muraille. À travers l'épreuve du feu, murmura-t-elle, pour lui comme pour moi. Est-ce par ce chemin que le père veut l'amener à lui ? Dans ce cas, Richard, je peux tout supporter. Le 16 février arriva. Ce matin-là, Lord Marnell sortait de chez lui pour se rendre chez sa femme, lorsqu'il rencontra l'abbé Bilson, souriant et affable. Il portait sous le bras un rouleau de parchemin. « Qu'avez-vous là, mon père ?» demanda Lord Marnell. « C'est l'acte d'accusation de Lady Marnell. Votre seigneur y sait qu'elle doit comparaître demain devant le conseil, et qu'elle sera jugée. J'aime à croire, révérend père, que vous ferez tous vos efforts pour que la sentence soit aussi douce que possible. Seigneur, nous n'avons qu'une peine pour les hérétiques, répliqua Bilson, et un sourire féroce découvrait toutes ses dents. La loi qui les concerne a été approuvée hier par le roi. Une seule peine ? Dit Lord Marnell avec surprise. Et quelle est-elle ? La mort. Lord Marnell chancela, en entendant cette affreuse nouvelle. Vous m'avez trompé, mon père. Vous m'avez trompé. Cria-t-il. Lorsque je me suis adressé à vous il y a quelques mois, vous m'avez dit que les hérétiques étaient emprisonnés. Seigneur, je viens de vous dire que la nouvelle loi date d'hier. Jusque-là, les hérétiques étaient en effet punis par la réclusion. Mais maintenant, en voyant comment il avait été la dupe du prêtre, Lord Marnell se trouvait hors de lui de fureur. Il s'emporta en malédictions et en jurons effroyables, mais l'abbé ne broncha pas. Seigneur, je vous adjure de ne pas blasphémer, sinon je devrais vous faire faire pénitence, dit-il tranquillement. Par un violent effort, Lord Marnell réussit à se maîtriser et demanda quelle mort était prévue par la loi. La décapitation ou la mort par le feu, suivant le bon plaisir du roi, répondit Bilson avec indifférence. Lady Marnell étant la femme d'un père du royaume, serait alors décapitée. C'est probable. Mon père, vous emploierez tous vos efforts pour que telle soit la sentence. Si le roi ne fait pas grâce, le roi ne fait pas grâce aux hérétiques. Il est un fils trop soumis de notre Sainte Mère l'Église pour cela. Et quant à mes faibles efforts, Seigneur, si vous le voulez, vous le pourrez, répliqua Lord Marnell, et je vous y contraindrai bien. Il s'éloigna rapidement. Le prêtre le suivit un instant des yeux, et l'expression triomphante de son visage était celle d'un démon.